Chapitre 5 Théorie erronée. Malheureusement, grâce à maintes théories non bibliques, la doctrine de la seconde apparition de Christ, à laquelle il est fait une place si importante dans les Écritures, perd pour bien des personnes toute sa réalité et toute son importance, en ce que l'accomplissement de toutes les menaces de la parole de Dieu relative au jour de la colère qui s'approche à grands pas, et à la manifestation du Fils de Dieu entouré de flammes de feu pour détruire les habitants de la terre, est relégué dans un avenir éloigné, quand il n'est pas entièrement perdu de vue. L'une de ces manières de dénaturer la seconde apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, consiste à enseigner que cette seconde venue a lieu, pour le chrétien, au moment de la mort. C'est là une flagrante contradiction non seulement des déclarations positives de l'Écriture, mais aussi des lois du langage. Il ne peut y avoir qu'un second avènement de Christ. Tandis que cette théorie vaporeuse en fait autant qu'il n'y a de cas de mort. Les premiers disciples étaient loin de l'idée que la mort fût la seconde venue de Christ. Pierre, voyant Jean, le disciple bien-aimé, peu avant l'ascension de son maître, dit à Jésus, « Seigneur! Et celui-ci, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Or, les disciples étaient si loin de prendre la mort pour la seconde venue de Christ, que quand ils crurent que leur maître leur donnait à entendre que l'apôtre Jean pourrait demeurer jusqu'à ce qu'il revînt, ils en conclurent immédiatement qu'il ne mourrait point. Et quelle théologie brumeuse que celle qui fait du moment de la mort le second avènement de Christ. Le Seigneur doit venir pour donner l'immortalité à son enfant. Il viendra en qualité de meilleur ami du croyant. La mort, par contre, est le dernier ennemi de l'homme, celui qui lui ôte l'existence. Christ doit revenir pour donner la vie au juste, et pour détruire celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a en effet l'empire de la mort, et, dans la providence de Dieu, il lui est permis de percer le cœur même des justes de sa flèche empoisonnée, de les coucher dans un cercueil, et de mettre son sceau sur leur tombeau. Mais le prince de la vie, pour avoir passé à travers l'empire de la mort, et pour s'être glorieusement affranchi de l'étreinte du sépulcre, jette ce cri de triomphe. Je fus mort, et voici que je suis vivant au siècle des siècles, Amen. Et j'ai les clés du séjour des morts. À sa seconde apparition, il ouvrira les tombeaux des justes, anéantira l'empire de la mort, leur dernier ennemi, et les mènera vers les scènes immortelles et éternelles de la gloire. Il en est qui prétendent également que la seconde venue de Christ n'est autre que l'acte de la conversion. Il y a donc autant de secondes venues de Christ que de conversion. Nous l'avons fait remarquer, il ne peut y avoir qu'une seconde apparition du Seigneur. D'autres encore, veulent voir le second avènement de Christ dans les manifestations du Saint-Esprit. Ici, de nouveau, on rencontre la difficulté d'une pluralité de secondes venues de Christ, vu le grand nombre de manifestations de l'Esprit de Dieu dans le cœur des hommes, alors qu'il ne peut y avoir qu'un seul second avènement de Christ. La distinction qui existe entre les manifestations du Saint-Esprit et la présence personnelle de Christ, lors de son apparition, est très clairement exprimée dans les Écritures. Écoutons Jésus, et je prierai mon Père, qui vous donnera un autre consolateur. Cette parole démontre l'existence de plus d'un consolateur. En son absence, le Père devait envoyer aux disciples un autre consolateur, à savoir l'Esprit de vérité. Durant l'absence du Fils, le Saint-Esprit devait être son représentant, et le consolateur de son peuple affligé. Tout cela est exprimé d'une manière bien distincte dans les paroles remarquables qui suivent, « Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, et de jugement. » Ni la raison ni la Bible ne nous autorisent à confondre d'une manière aussi grossière Jésus absent, et son représentant sur la terre, le Saint-Esprit. Une dernière théorie mystique que nous mentionnerons, mais qui n'est pas moins la plus répandue, est que, chronologiquement, nous aurions dû placer en premier lieu, C'est celle qui fait du second avènement le règne spirituel de Christ sur la terre durant le millénium, période pendant laquelle aurait lieu la conversion du monde. Cette théorie, qui n'est enseignée nulle part dans l'Écriture, et qui se heurte à tous les passages déjà cités, comme à ceux qui doivent l'être encore, a été exposée pour la première fois par un théologien anglais, le docteur Whitby, 1637-1727, et a été depuis adoptée sans examen attentif par un grand nombre de théologiens évangéliques. C'est évidemment de cette erreur moderne, devenue populaire, que sont sorties ces interprétations mystiques au moyen desquelles on rapporte les déclarations formelles de l'Écriture relatives à la seconde apparition du prince de la vie, ou au moment de la mort, ou à l'acte de la conversion, ou aux manifestations isolées du Saint-Esprit, ou encore, dans certains pays, aux manifestations du mormonisme et du spiritisme. Dans son discours prophétique de Matthieu 24 et 25, discours qui embrasse toute la dispensation chrétienne, notre Sauveur, après avoir parlé de la tribulation de l'Église au milieu d'atroces persécutions, et arrivant au dernier jour, dit de notre temps, « Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. » Le mot « alors », dans ce passage, désigne une époque précise à laquelle on entendrait « le Christ est ici, il est là ». Notre Seigneur décrit ici les séductions spirituelles du temps présent. De faux Christ s'étaient élevés au temps du premier avènement, pour tromper les Juifs à l'égard de cet événement. De même, il s'est élevé de faux Christ et de faux prophètes en nos jours, pour séduire les hommes à l'égard du second avènement. Quelle n'est donc point la force des paroles de Christ, appliquées au sujet qui est devant nous, lorsqu'il dit, « Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. » Il ne semble pas qu'on puisse ignorer de qui il est ici question. Le Seigneur continue en effet, « Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Si, à l'extrémité du monde, vous entendez les Mormons, qui s'intitulent les saints des derniers jours, vous dire, le voici dans le désert, l'ordre de notre Seigneur est, n'y allez point. Ou si vous entendez dire du haut des chairs, le voici dans les lieux retirés, la seconde venue de Christ est spirituelle, c'est le moment de la mort, c'est celui de la conversion, ne le croyez point. Et pourquoi faut-il repousser ces enseignements mystiques? La raison nous en est donnée dans le verset suivant, car comme un éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Si notre Seigneur nous signale de faux docteurs et nous met en garde contre leurs enseignements vaporeux, il nous a, en revanche, renseignés en termes aussi clairs que possible sur la nature de sa seconde apparition. L'éblouissant éclair qui fend la nuit du ciel oriental, illumine tout le ciel jusqu'à l'Occident. C'est peut-être là la figure la plus propre que notre Seigneur eût pu employer pour donner une idée de la gloire flamboyante qui l'accompagnera, lorsqu'il viendra du ciel entouré de tous les saints anges. L'éclat, la grandeur, la magnificence de la scène défie toute description dans les langues humaines. L'apparition d'un seul ange au sépulcre neuf où le Christ est couché, terrasse les gardes romains, et les fait devenir comme morts. La lumière et la gloire de ce messager céleste avaient complètement anéanti pour un moment ses robustes sentinelles. Mais le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire royale et dans la gloire de son Père, accompagné de tous les saints anges. Le nombre des anges qui entourent le trône en qualité de garde de corps du Fils de Dieu, s'élève à des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Voyez. L'apôtre Paul parle des myriades d'anges qui sont devant Dieu. Scène incomparable de grandeur et de majesté. Entouré d'une gloire éblouissante, le roi des rois descend de la voûte illuminée du ciel, accompagné de tous les anges du monde céleste. Tous les cieux resplendissent d'un éclat infini, et la terre tout entière tremble devant lui.